Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal d'Élise Danjean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est une campagne éclair qui se termine ce soir et le Rassemblement National va devoir partir en opération SAV après la sortie de l'un de ses députés sur les binationaux, d'autant que désormais Emmanuel Macron s'en mêle. Une polémique qui fait rage depuis plusieurs jours mais qui ne change rien. Le RN pourrait même obtenir la majorité absolue selon un dernier sondage Elab.
Et puis notez qu'à 8h30, mon invité c'est le Premier ministre Gabriel Attal et cette interview on la prépare ensemble. Appelez-moi dès maintenant au 3216. Vos questions, vos interpellations pour Gabriel Attal, on vous attend.
Aux États-Unis, un Donald Trump plein d'aplomb et un Joe Biden très embrouillé. Les démocrates inquiets après le premier débat à 4 mois de l'élection présidentielle.
Dernier jour de campagne et une ultime polémique qui nous vient du Rassemblement National.
Elle couvait depuis lundi et la présentation du programme par Jordan Bardella avec cette mesure, l'interdiction pour les binationaux d'accéder à certains postes stratégiques. Le Premier ministre Gabriel Attal n'a d'ailleurs pas manqué d'attaquer son rival là-dessus au cours des deux débats. Et alors que le RN tentait de calmer le jeu, l'un de ses députés a remis une pièce dans la machine hier soir en appelant à élargir cette interdiction à tous les postes ministériels, Cyprien Pézeril.
Aucun Français binational dans un gouvernement, en plus donc de l'accès à certains emplois publics. C'est la position du monsieur éducation du RN, Roger Chudeau.
Je pense que les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français. Il y a un problème de double loyauté à un moment donné.
Encore hier matin, les dirigeants du RN assuraient que l'interdiction ne concernait qu'une 50aine de postes. Mais Roger Chudeau va donc plus loin et cite l'exemple notamment de Najat Vallaud-Belkacem.
Comme elle est franco-marocaine, elle a marqué un intérêt soutenu pour l'enseignement de l'arabe dans notre pays et que ce n'était pas tout à fait utile à ce moment-là, voyez-vous.
Manuel Valls, espagnol, Premier ministre, ça serait plus possible.
Écoutez, je ne pense pas que ce soit souhaitable.
Indignation immédiate et unanime à gauche. À Bruxelles, il est plus de minuit quand Emmanuel Macron réagit lui aussi.
Pouvoir dire cela aujourd'hui, c'est une dissolution des esprits et des consciences. Et je ne m'y résoudrai jamais, quoi qu'il arrive. Ce qui se joue dans la parole des inhibés qu'on a ces derniers jours dit quelque chose d'une trahison profonde de ce qu'est notre République et ses valeurs.
Sans se dédire, le député sortant du RN a finalement reconnu qu'il s'agissait d'une position personnelle. Lundi, pourtant, Jordan Bardella avait réclamé de ne pas passer toute la campagne sur cette mesure.
Le RN qui tente d'éteindre la polémique depuis lundi, mais pour l'heure, elle ne semble pas affecter les intentions de vote pour le parti de Jordan Bardella qui fait toujours la course en tête. Romain Cluzel du service politique d'RMC, le tout dernier sondage Elab publié aujourd'hui pour BFM et la Tribune dimanche, crédite le RN de 36% des voix, ce qui signifie, Romain, une possible majorité absolue.
Oui, entre 265 et 295 sièges pour le Rassemblement National et ses alliés. Si on prend la projection de sièges la plus haute, 295, donc on est au-dessus des 289 députés synonymes de majorité absolue à l'Assemblée. Concrètement, cela signifie que le RN et les Républicains de la branche Ciotti n'auraient pas besoin de composer avec d'autres groupes à l'Assemblée pour passer leur texte. L'extrême droite majoritaire dans l'hémicycle, ce serait évidemment une première dans l'histoire de la Ve République.
Et l'autre enseignement de ce sondage, Romain, c'est la très forte participation attendue dès le premier tour.
Oui, cette participation, elle pourrait atteindre 63 à 65%. C'est du jamais vu depuis plus de 20 ans pour des élections législatives. En comparaison, en 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron, seulement 47% des électeurs s'étaient déplacés aux législatives. La dissolution semble avoir un effet choc sur la mobilisation, mais quel camp va en profiter ? Cela reste très incertain parce que un Français sur quatre hésite encore sur son choix selon ce sondage, alors que la campagne se termine ce soir à minuit.
Lui se mobilise depuis son cabinet à Saint-Martin-des-Besaces dans le Calvados. Un médecin menace d'arrêter d'exercer si son village choisit ce qu'il appelle l'extrême violence. Le parti n'est pas directement nommé, mais c'est bien le RN qui est arrivé en tête dans sa commune aux européennes. Et si ça se reproduit aux législatives, eh bien ce sera 100 mois, dit le médecin dans une lettre affichée dans sa salle d'attente. Mais les habitants n'approuvent pas tellement la démarche, Martin Cadoret.
Des votes inspirés par la haine et la malveillance. Voilà comment le médecin de ce petit bourg qualifie le vote RN. Sophie a lu sa lettre affichée dans la salle d'attente.
Je trouve qu'il est quand même dans le jugement. Il reste poli, il reste correct, mais voilà. Pour moi, c'est du chantage.
Dans cette petite ville, parler politique semble quasi tabou.
Parce que bon, bah après, ça fait des conflits, quoi.
Et c'est bien pour cela que cette lettre agace Aurore.
Je pense que c'est maladroit entre soigner les gens et avoir son avis politique. Oui, non, je trouve qu'il n'y a pas de rapport. Après, voilà, non, ça ne m'empêchera pas d'aller le voir. Côté de ça, c'est un super docteur.
Dans la boulangerie d'Élodie, la démarche du médecin fait débat.
Chacun a le droit de voter pour qui il veut. Alors moi, c'est plus
plus ça qui me perturbe qu'on l'affiche comme ça. C'est comme si moi je disais demain j'arrête de faire du pain.
Ouais, monsieur.
Merci, au revoir.
Il a juste mis un truc.
Oui, il a affiché en disant que voilà.
Moi je suis très contente qu'un médecin prenne ces valeurs-là. On parle souvent des célébrités, tout ça, qui vont un peu donner ce qu'ils en pensent. Bon, bah là c'est pas une célébrité, mais ça reste un médecin de village et je trouve qu'au moins c'est important.
Régis, lui, pense au contraire que la lettre n'aura aucun effet.
Il met ce qu'il veut, mais bon, les gens voteront ce qu'ils ont envie de voter de toute façon, donc ça va pas changer grand-chose. Ça serait quand même dommage qu'on se retrouve sans médecin juste pour un vote.
Le médecin, lui, dit ne pas vouloir donner de leçons. Mon cri du cœur, explique-t-il, est un appel sincère à des discussions fraternelles avec mes patients.
Et dimanche soir, ne manquez pas notre soirée spéciale législative sur RMC, émission animée par Olivier Truchot dès 19h45. Les résultats de ce premier tour, les réactions politiques, nos reporters sur le terrain et vous au 32-16.
7h06 sur RMC, on a donc assisté cette nuit à un véritable show à l'américaine.
Pour le premier débat sur CNN entre Joe Biden et Donald Trump à 4 mois de l'élection présidentielle américaine, inflation, immigration, Ukraine, tous les sujets y sont passés. Le ton est souvent monté entre les deux hommes. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Joe Biden assure s'en être bien sorti ce matin face à son prédécesseur, mais clairement, il n'y a qu'un seul vainqueur.
Oui, ce duel était un match de boxe et Joe Biden a passé quasiment 90 minutes dans les cordes à subir les coups et les attaques de Donald Trump. Il a été mis en difficulté et c'était attendu sur l'économie et l'immigration. En revanche, ce qui est plus inquiétant pour lui, c'est qu'il n'a pas réussi à marquer des points sur des sujets où a priori il avait l'avantage, comme l'avortement. Ses réponses étaient brouillonnes, confuses et peu convaincantes. Par ailleurs, sur la forme, Joe Biden a semblé perdu, hagard, parfois même résigné. Il voulait profiter de ce débat pour rassurer sur ses capacités mentales et physique, c'est raté. Et je peux vous dire qu'en coulisses, les démocrates ce soir sont très inquiets pour la suite de la campagne. Alors, de son côté, Trump, lui, a réussi à dérouler son argumentaire, parfois en racontant n'importe quoi, mais sans jamais vraiment être contredit. Par ailleurs, sur la forme, il a réussi à garder son calme. Ça, c'était très important pour lui, pour aller chercher des voix chez les électeurs indécis. Ce débat marquait en tout cas le début de la campagne. Et vraiment, ce soir, on a le sentiment que Joe Biden a pris un très mauvais départ.
7h07, c'est la finale du top 14 ce soir. L'Union Bordeaux-Bègles affronte Toulouse. Coup d'envoi à 21h05 à suivre sur RMC. En football, les Bleus ont repris l'entraînement hier et préparent leur 8e de finale de l'Euro face à la Belgique. Ce sera lundi et pas question de sous-estimer l'adversaire Arthur Perrault.
Oui, la prudence reste de mise dans le groupe France, tout aussi fragile que les Belges deuxièmes de leur groupe, visés par une bronca de leurs supporters après leur match nul contre l'Ukraine. Mais le défenseur William Saliba connaît les qualités de cette équipe.
On sait que ça va pas être facile, hein. C'est une équipe très bonne avec de très grands joueurs. Donc voilà, on va pas les prendre de haut et on va tout donner pour se qualifier en quart de finale.
L'homme à surveiller côté belge, Romelu Lukaku, une passe décisive et zéro réalisation pour l'attaquant de l'AS Rome. Mais il s'est vu refuser 3 buts par le VAR. Le défenseur d'Ayo Upamecano reste méfiant.
On sait tous ce qu'il est capable de faire. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Il est très fort physiquement et il joue pas tout seul. Ça va être la Belgique. On va pas jouer que contre Lukaku. On va pas se focaliser que sur Lukaku. On sait que c'est une arme dangereuse, mais il y a pas que lui.
Affronter le finaliste de la dernière Coupe du Monde, une perspective qui n'inquiète pas le Belge Woodface, qui dit ne pas avoir peur. William Saliba lui répond.
Nous aussi, on n'a pas peur de la Belgique. On a peur de personne. Et s'il a pas peur de nous, tant mieux pour lui. On verra lundi et on va tout faire pour gagner.
Les Bleus ne se sont plus inclinés face à la Belgique depuis le 7 juin 2015 et un match amical au Stade de France.
Et puis J-1 avant le départ du Tour de France. Pour la première fois, c'est à Florence, en Italie, que les coureurs vont s'élancer. On y sera dans le journal de 7h30.
C'était le journal des vices d'Anjan. Il est 7h09.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Les Français ont moins d'appétit pour la viande, la consommation recule et surtout le bœuf. Hausse des prix ou nouvelles habitudes? On en parle dans un tout petit instant avec la présidente du syndicat des bouchers de Paris. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11, bon réveil sur RMC.
Le témoin RMC.
Alors c'est pas tout à fait l'heure du petit-déj et on en mange rarement au petit-déj, mais on va quand même parler de viande parce que les Français ont moins d'appétit pour la viande, une baisse de la consommation un peu partout en France. Bonjour Véronique Langlais.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous tenez une boucherie à Paris et vous êtes présidente du syndicat des boucheries de Paris. La consommation de viande qui recule un peu partout, surtout la viande de bœuf. On a reçu les chiffres du ministère de l'Agriculture hier. Est-ce que vous, vous le voyez dans vos commerces ?
Alors, la question, c'est même pas de savoir si je le vois ou pas. C'est déjà que les chiffres que vous nous communiquez, qui sont les chiffres qui sont sur le site de France Agrimaire, qui est un établissement public, sont des chiffres qu'il faut savoir analyser.
450 grammes maximum par semaine permettraient d'atteindre les objectifs climatiques fixés par pays. Ça, c'est ce que recommandent de plus en plus les Français. Mais désormais, la consommation de bœuf a chuté. Ce qui continue à peu près à tenir la route, c'est la volaille.
Alors, non, au contraire, ça a augmenté, la volaille. Et le bœuf.
Oui, c'est ça, ça continue à tenir la route. C'est ce qui continue à être consommé, la volaille.
Quand vous regardez les chiffres, vous êtes sur du 23 kilos, il me semble, par an.
5,8% de moins en 20 ans en France.
Oui, sauf que, en fait, les chiffres qui sont évoqués là sont des chiffres sur carcasse. Aujourd'hui, qui mange les os, le gras, les aponévroses ? Personne.
Ça veut dire quoi ? Je comprends pas ce que vous dites.
Alors, en fait, quand on regarde les chiffres, il s'agit de chiffres de viande sur carcasse. C'est-à-dire que quand nous, on reçoit la viande, on reçoit des carcasses de bœuf avec les os que nous retirons, les aponévroses qui sont les nerfs, les séparations, et
vous le préparez
gras.
La viande.
Exactement. Et les chiffres qui sont mis ici en évidence sont des chiffres sur carcasse. C'est pour ça que j'insiste pour être prudent là-dessus.
C'est-à-dire que vous, dans les magasins, vous voyez quand même un nouveau rapport à la consommation de viande.
Alors, on voit un nouveau rapport, mais le Français consomme toujours de la viande. Moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est le Français qui n'a plus accès à ce produit, qui devient un produit de luxe. Et je rappelle que nous sommes en pleine élection législative et qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu un seul parti politique parler de l'alimentation des Français, parler de l'agriculture et parler de notre souveraineté, parce que, évidemment, la viande fait partie des produits que nous consommons au quotidien.
Pour le coup, si je peux me permettre, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé pendant la campagne des européennes. On n'a jamais autant parlé de l'alimentation des Français, des agriculteurs, des producteurs français.
Je suis d'accord.
On peut même dire que la colère des agriculteurs est sans doute ce qui a lancé la campagne des européennes.
Oui, mais les législatives, on en entend pas
parler. Mais Véronique Lenglet, la question que je vous pose aussi, quand vous êtes face à vos clients, j'imagine qu'il y a aussi des clients habituels, est-ce que leur mode de consommation a changé ça ? Est-ce que
malgré tout, évolué, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes paradigmes qu'en 90, qu'en 2000. Aujourd'hui, le consommateur consomme davantage de viande transformée, donc de plats qui sont cuisinés. Et pourquoi on a une baisse de consommation de bœuf ? Je vais rebondir de ça là-dessus. Tout simplement parce que quand on achète des produits transformés, on a moins d'ingrédients, on a plus de sauce, on a plus de carottes, de garnitures. Et quand vous allez acheter un plat cuisiné, surgelé, ou transformé en grande distribution ou n'importe où, vous allez pouvoir constater que vous avez moins de viande dans le plat que vous achetez.
En fait, c'est aussi les transformateurs qui ont réduit la part de viande dans leur
Bien
plat.
Bien évidemment, pour des raisons de coût, évidemment. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est est-ce que le consommateur sait ce qu'il mange ?
En fait, c'est une forme de shrinkflation, si je peux me permettre. C'est une forme de shrinkflation de la viande, de la part de viande, de la part de protéines. Imaginons le cas d'un hachis parmentier familial qu'on achète chez Picard ou je ne sais où. Ce que vous voulez dire, c'est que éventuellement la part de viande par rapport à la part de pommes de terre, c'est à réduire.
Voilà. Et mon problème aussi, c'est que ce n'est pas forcément de la viande française. Et aujourd'hui, il faut aussi se préoccuper de ce que nous consommons.
Est-ce que malgré tout, vous vendez un peu moins de bœuf et un peu plus d'escalope de poulet ?
Alors, un peu moins de bœuf, non. On va se diriger, et c'est là qui est difficile, notre métier, c'est qu'on va se diriger davantage vers des viandes de première catégorie, c'est-à-dire des côtes de bœuf, des filets de bœuf, des faux filets, des steaks, du steak haché. Donc, effectivement, c'est plus difficile à nous de valoriser les carcasses.
C'est-à-dire qu'en fait, on achète un peu moins de viande, mais de meilleure qualité.
Alors, pas forcément de meilleure qualité, puisque je rappelle qu'un bourguignon...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que de meilleure qualité, je ne dis pas que la troisième catégorie est de mauvaise qualité. Je dis simplement qu'il y a une sélection qui est faite. C'est-à-dire, quitte à en manger un peu moins, autant qu'elle soit bonne.
Exactement. Mais ça, c'est le but aujourd'hui.
Et le poulet,
du consommateur.
En revanche, on est bien d'accord que le poulet du dimanche, ça ne bouge pas pour les Français. Ils y restent très attachés.
Oui, tout à fait. Alors, le poulet du dimanche, mais surtout la découpe de volaille. Et c'est aussi une préoccupation.
L'escalope de poulet, quoi.
Exactement, l'escalope de poulet, le blanc de poulet.
Et ça, vous arrivez à suivre cette demande de poulet qui a augmenté ?
Oui, absolument, on arrive à suivre. Mais ce qui est compliqué, alors c'est pas forcément pour l'artisanat, c'est là pour la restauration collective où on va importer énormément de volailles.
On a beaucoup parlé, alors pendant cette campagne, notamment
de poulet qui est importé.
Du poulet ukrainien,
oui.
Il est beaucoup plus compétitif.
Oui, tout à fait. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Dans l'artisanat, on est extrêmement préservé puisqu'on source en local, en national. Mais encore une fois, j'appelle à la vigilance du citoyen.
Donc quand les Français achètent un poulet à cuire chez eux, ils choisissent plutôt d'ailleurs des poulets français.
Oui.
C'est l'occasion de parler des poulets de Loué. Mais je suis sartoise. Mais en revanche, dans les poulets transformés, c'est-à-dire les nuggets, la restauration collective, etc.
Tout à fait.
Là, en fait, ce n'est pas du poulet français.
Pas forcément, non. Pas forcément, et encore une fois, pour des raisons de coût.
Merci beaucoup, Véronique Langlais, d'être venue faire le point avec nous ce matin. Je vous laisse repartir en direction de votre boucherie à Paris, puisque je rappelle que vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris, mais que vous êtes aussi à la tête de votre propre boucherie,
exactement,
qui est dans le 17e à Paris. Il
Merci.
Est 7h17.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, le 7h20 d'Apolline Matin avec le trio du vendredi, Solène Leroux, Manu Le Chypre, Arnaud Demanche. Et puis dans 20 minutes, dernier jour de campagne, 3 semaines très intenses. Mais est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose ? Réponse avec la politologue Chloé Morin. Le Premier ministre Gabriel Attal sera mon invité tout à l'heure à 8h30 et vous continuez à préparer cette interview avec moi en envoyant vos questions au 3216 ou à l'adresse vosquestions@rmc.fr. Il est 7h18.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de la campagne des législatives, c'est tous les jours sur RMC. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour Apolline.
Hélène, vous nous dites ce matin que Gabriel Attal se pose déjà des questions sur la suite, sur l'après-législative.
Oui, et c'est un sacré exercice que d'imaginer la suite pour Gabriel Attal, répond un ancien ministre qui, comme tous nos interlocuteurs, renvoie au résultat du scrutin. Dans son entourage, on refuse aussi d'envisager quoi que ce soit. Et Gabriel Attal mène la campagne, il a la tête dans le guidon, bref, ce n'est pas le moment d'y penser. Pourtant, d'autres le font pour lui. Une chose est sûre, il sera aux avant-postes, considère un de ses anciens collègues au gouvernement. Une des pistes qui revient avec insistance, c'est celle de prendre la tête du futur groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Encore faut-il, bien sûr, qu'il regagne son siège de député, ce qui devrait se faire sans trop de difficultés. Sa légitimité, elle, semble déjà gagnée et même acquise auprès des députés sortants, contrairement à celle très écorchée du président. Aujourd'hui, l'atout, c'est Gabriel Attal, martèle une ex-députée en campagne. Sa popularité, il a pu la mesurer d'après ses proches, lui qui est allé soutenir des candidats dans une cintaine de circonscriptions en moins de 3 semaines. Après avoir été trahi, sonné par Emmanuel Macron, dit un ancien ministre, il se dit qu'il a une carte à jouer pour l'avenir. Alors, parmi les autres options qui s'ouvrent à lui, certains évoquent la tête du parti. Reste toujours la mairie de Paris, auquel il n'aurait pas renoncé, selon un visage de la majorité. Mais là, il faudra mener une autre campagne et dealer avec Rachida Dati, candidate autoproclamée.
Indiscret RMC, signé Hélène Terzian du service politique. Merci Hélène.
RMC, Apolline Matin, le 7h20. Pardon.
Apolline de Malherbe.
C'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec autour de la table Solène Leroux, Manu Le Chypre, Arnaud Demanche. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Solène, aujourd'hui on prend des nouvelles de la petite Emma. Elle a 5 ans.
Ouais, née d'une maman chilienne et allemande, Maria, et d'un papa français, Mathieu. Ils sont revenus en Europe au printemps dernier après 10 ans passés au Chili. Mathieu a lancé les démarches dès l'année dernière pour inscrire sa fille à l'état civil en France et lui faire un passeport. Car même si elle est née à l'étranger, elle est bien française par son père. Et donc quand il nous a contacté il y a 3 mois, le dossier était toujours en attente et suite à notre intervention, le dossier est réglé, Emma est officiellement française.
Hyper content, c'est clair. Étonné que ça soit passé aussi vite alors après un an d'attente, mais si on les pousse un peu et on leur met un peu de pression, apparemment ils peuvent travailler dans des délais convenables.
Ils savent travailler dans des délais convenables quand RMC les appelle.
Voilà. Bon,
c'est très chouette pour eux et pour la petite Emma. Est-ce que Mathieu a obtenu d'ailleurs une explication pourquoi?
Eh ben non, et nous non plus. Hein. Évidemment, on ne saura pas pourquoi ça a pris un an. Pas d'excuses non plus, comme si c'était normal, dit Mathieu. Mais bon, l'essentiel est là, et là. Emma, à son passeport. Et pour la petite histoire, le document est arrivé 48 heures avant le vol pour l'Espagne, avant leur déménagement. Mais heureusement, Mathieu et sa femme avaient anticipé.
J'avais fait une démarche avec ma femme à l'ambassade d'Allemagne pour que ma fille puisse avoir un passeport allemand au cas où on n'aurait pas le passeport français à temps. On a eu le passeport allemand où ils ont mis 15 jours à nous passer le passeport allemand de ma fille. Elle a 3 passeports, français, allemand et chilien.
Oh, bah dis donc, extraordinaire. Mais par contre, ce que je trouve terrible, c'est quand il dit, bon, il l'a eu en, elle l'a eu en 15 jours, le passeport allemand.
Ah, ouais,
c'est
ouais.
vrai que ça, ça fait rêver. La Deutsche Qualität. L'efficacité allemande. Tout est bien qui finit bien, donc.
Eh bah, presque. Ah. Évidemment, il y a un petit hic. En fait, le délai interminable pour inscrire sa fille à l'état civil français a empêché Mathieu de déposer une demande de bourse scolaire dans les temps. Emma va à l'école française de Barcelone. Ça coûte 480 € par mois, sans compter la cantine en plus, donc un sacré budget. On a donc demandé au ministère des Affaires étrangères une dérogation. On attend toujours un retour, mais on y croit.
Et l'actu éco, justement, à 7h20, Manu, avec les Allemands qui s'inquiètent pour nous. Ils parlent même d'une tragédie budgétaire à l'issue des élections.
Oui, parce que vous parliez de Deutsche Qualität, la Deutsche Qualität budgétaire aussi, c'est ouais. l'Allemagne. Et effectivement, ces mots hein, qui sont quand même terribles, hein, qui craint une tragédie budgétaire en France, ce sont ceux de Christian Lindner, qui est ministre des Finances allemand. Et ce sont des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche d'un ministre européen. Alors clairement, il redoute que le prochain gouvernement français subisse le même sort que le gouvernement de la Britannique Liz Truss, c'était en 2022. Vous savez, elle annonce un programme assez proche finalement de ce qu'est le programme du RN ou le programme du Nouveau Front Populaire, avec un creusement des déficits publics. Et là, les taux d'intérêt se sont envolés, la livre s'était effondrée, la Banque d'Angleterre avait dû intervenir. Et donc, il va jusqu'à espérer, finalement, Christian Lindner, que la Banque Centrale Européenne, qui en a la possibilité, il faut le rappeler, en cas de crise grave, n'aura pas à intervenir pour sauver les finances publiques françaises.
Est-ce qu'il y a vraiment un risque pour nos finances publiques?
Alors, quand on fait les simulations, vous savez, avec des modèles économétriques, c'est des maquettes, finalement, qui simulent le fonctionnement de l'économie française. On a utilisé ça, nous, à l'Observatoire BFM Business. On a un impact du programme du Nouveau Front Populaire qui est assez important, mais c'est l'impact classique des programmes de relance de la demande. Le même impact, finalement, que le programme de François Mitterrand en 1981. C'est-à-dire que vous augmentez les salaires, vous relancez la consommation, mais c'est surtout des produits étrangers. Vous faites monter le chômage parce que vous augmentez le coût du travail. Et pour les finances publiques, en gros, si on regarde à l'horizon 2027, c'est-à-dire la fin théorique du mandat d'Emmanuel Macron, le programme de la gauche, c'est 3 points de déficit public en plus, c'est-à-dire à peu près 80 milliards d'euros. Comme le programme du Rassemblement National est beaucoup moins ambitieux en termes d'ampleur, on a un impact qui paraît beaucoup plus faible à l'horizon 2027 sur les finances publiques. Sauf que le vrai saut dans l'inconnu, c'est le programme du Rassemblement National, parce que qu'est-ce qui va se passer après au niveau des négociations européennes, sur les traités, est-ce qu'on va sur le marché de l'électricité, la préférence nationale, est-ce que ça va remettre en cause les traités commerciaux, etc. S'il fallait résumer, si vous voulez, les deux offres en matière budgétaire, vous avez le programme du Nouveau Front Populaire, c'est un chèque en bois. Le programme du Rassemblement National, c'est un chèque en blanc.
Très, très limpide comme explication. Merci Manu. Arnaud,
oui.
Mon invité dans le face-à-face ce matin, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre, pour ce dernier jour de campagne officielle.
Bah oui, quelle précocité, hein. Même pas 35 ans et déjà sa première tournée d'adieu. Alors que Michel Sardou ou Charles Aznavour ont dû attendre 65 balais quand même.
Nous reverrons.
Oui, on se reverra, Gabriel. En tout cas, je ne le pensais pas si à gauche, Gabriel Attal. Hein, la retraite à 34 ans, s'il nous avait vendu ça, il restait au pouvoir pour l'éternité, le gars. Même Mitterrand n'a pas osé. Gabriel Attal, qui était en débat hier soir contre Jordan Bardella et Olivier Faure, il passe sa vie à faire des débats, ce garçon. Hein. Il va pouvoir animer TPMP quand Cyril Hanouna va partir au ministère de la Culture dans 8 jours. Il va faire « Bonsoir, mes petites beautés. Hein. Alors, vous avez vu Masked Singer, dans le costume de l'hippopotame, c'était Stanislas Guérini. Ouais. Même moi, je ne l'ai pas reconnu chanter. Hein. Je suis comme vous, moi non plus, je ne le connais pas, le son de sa voix. J'ai jamais entendu. Pendant le débat, on a encore parlé des binationaux et de l'interdiction du RN. Ils ne veulent pas que les binationaux exercent des métiers sensibles. On se souvient de l'exemple des franco-russes lors du débat précédent. Bardella est contre. Il a oui, vous imaginez, un franco-russe au gouvernement, il pourrait être tenté d'être loyal envers la France plutôt que d'obéir à la Russie. Ce sera une trahison de notre politique au Rassemblement National. En tout cas, ça va lui faire mal de passer le pouvoir à Bardella, Attal, et de rester à côté de lui quand il dira « Je serai le Premier ministre de tous les Français, qu'ils soient blancs, blonds, qu'ils aient les yeux bleus, qu'ils soient blancs clairs ou qu'ils aient le crâne rasé, je les représenterai tous. » Moi, je serais à la place d'Attal, je piégerais Matignon. je planquerais des anchois dans les tringles à rideaux, des trucs comme ça. Il doit être
des anchois dans les tringles à rideaux.
On dévisse et on rebouche et on revisse. Et après, ça ne se voit pas. Et après, ça sent.
Ça sent le vécu surtout.
Il doit être. Alors j'ai fait un truc comme ça, je vous raconterai. J'ai mis de l'opéra chinois à fond en partant en vacances à des voisins qui me faisaient chier. Bon, il doit être. L'opéra chinois, c'est violent. Il doit être au bout. Non, mais ça sonne un peu hystérique, c'est horrible. Bref, il doit être au bout du rouleau, le pauvre Gabriel. Macron l'a pas écouté pour la dissolution, il a flingué son job, il l'a envoyé faire campagne pour lui quand même. Au dernier conseil des ministres, je sens que Gabi va se pointer en slip kangourou avec un masque en forme de poussin sur la tête en disant « au revoir président, au revoir au... ». Allez, dernière interview avant les législatives, c'est l'événement Gabriel Attal à 8h30. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les indécis pourront-ils inverser la tendance à 2 jours des législatives? Un Français sur 4 hésite encore et pourrait changer d'avis d'ici dimanche. Débat houleux cette nuit aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. À quelques mois de la présidentielle, inflation, immigration, santé, les deux hommes se sont affrontés sur différents sujets, s'accusant tour à tour d'avoir été le pire président des États-Unis. Et puis le Tour de France s'élancera demain de Florence, un grand départ en Italie inédit à vivre sur RMC.
Dernier jour de campagne à 2 jours du scrutin législatif.
Les candidats jetteront leur dernière force dans la bataille avant de faire silence radio ce soir à minuit jusqu'à dimanche 20h et le résultat du premier tour, un sondage Elab pour BFM TV et la tribune dimanche place le RN et ses alliés en tête des intentions de vote avec 36% des voix. Le nouveau Front Populaire progresse légèrement à 27,5%. Devant le camp présidentiel à 20%. Il existe cependant une marge d'erreur puisque toujours selon ce sondage, un Français sur 4 pourrait changer d'avis d'ici dimanche. C'est le cas de ces électeurs rencontrés dans le Rhône par Vincent Chevalier pour RMC.
À seulement 2 jours du vote, Alban est encore très indécis.
Je suis en réflexion.
La politique laisse un goût amer à ce banquier de 33 ans.
Je me reconnais pas pleinement dans les programmes qui sont proposés.
D'autres hésitent surtout sur la couleur du parti. Claire n'est pas certaine de redonner sa voix au camp présidentiel, mais le changement l'inquiète.
Si c'est pour avoir un gouvernement ingouvernable, c'est quand même compliqué, quoi. C'est pour ça un choix de raison, selon moi.
De son côté, Claire, électrice plutôt de droite, se questionne beaucoup dernièrement sur un vote Rassemblement National.
Il y a toujours une culpabilité. Il faut que j'arrive à enlever cette culpabilité éventuellement d'un vote extrême.
C'est tout le contraire pour Gabrielle. Cette retraitée de 76 ans veut faire barrage au RN et pour la première fois de sa vie, elle pourrait se laisser tenter par la gauche.
J'ai toujours voté au centre. Là, je sens que je ne peux pas. C'est pas assez solide.
Corentin aussi aimerait changer, mais lui reste un peu déboussolé par les alliances avec les extrêmes.
Les associations de plusieurs partis cannibalisent un peu les possibilités de se positionner. Ça complexifie beaucoup les choses.
Tous veulent en tout cas fixer leur vote rapidement pour ne pas avoir à prendre de décision dans l'isoloir.
Des électeurs qui auront sûrement suivi le dernier débat du premier tour. C'était hier soir sur France 2. Jordan Bardella, Olivier Faure et Gabriel Attal se sont affrontés dans de vifs échanges. Un débat durant lequel l'actuel Premier ministre s'est attaqué au Rassemblement National qu'il accuse de diviser les Français.
On ne peut pas se présenter ici comme l'homme du Rassemblement, l'homme de l'apaisement. Quand on propose dans son programme de stigmatiser 3,5 millions de Français binationaux comme vous le faites, on ne peut pas construire l'apaisement et le rassemblement quand on présente dans cette élection plus d'une centaine de candidats, c'est-à-dire presque 1 sur 5 pour lesquels on a trouvé des propos racistes, antisémites ou homophobes. Quand on veut apaiser, on a un devoir d'exemplarité. Chacune et chacun, on doit toujours en permanence être intraitable avec tous les discours de haine parce que en n'étant pas intraitable, on finit par les légitimer.
Gabriel Attal qui sera d'ailleurs l'invité d'Apolline à 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV. Une potentielle future cohabitation avec le RN qui agite les discussions de couloir à Bruxelles en marche d'un sommet européen. Emmanuel Macron dénonce l'arrogance du Rassemblement National qu'il accuse de s'être déjà réparti les postes du gouvernement. Les 27 pays de l'Union qui se sont d'ailleurs entendus hier sur une nouvelle candidature d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Ce sera aux eurodéputés d'en décider et de voter en juillet. Autre débat, autre pays, direction les États-Unis. À 4 mois de la présidentielle, Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés cette nuit dans un échange tendu où les attaques personnelles ont fusé. Illustration avec cette séquence dans laquelle Donald Trump ne s'engage pas formellement à reconnaître le résultat de la prochaine élection.
Si l'élection est équitable, si elle est juridiquement solide, oui, absolument. Mais je ne pouvais pas accepter les précédents résultats. Il y avait des fraudes.
Tu ne fais que te plaindre. Tu continues à répandre ces mensonges sur le vol et la fraude. Il n'y a aucune preuve de cela. Moi, je ne pense pas que tu vas accepter les résultats de cette élection parce que tu te plains tout le temps. Tu ne supportes pas de perdre.
Et ne manquez pas l'analyse de ce débat avec Nicolas Poincaré à 7h50 sur RMC. 18 mois à 2 ans de prison avec sursis requis contre deux encadrants de la brigade fluviale de Paris, jugés hier pour homicide involontaire. 6 ans après la mort d'Amandine Giraud, gardienne de la paix, noyée dans la Seine lors d'un exercice. Le délibéré sera rendu en septembre. La demi-finale du Top 14 ce soir, l'Union Bordeaux-Bègles défie Toulouse, tenant du titre. Ce sera ce soir au Vélodrome. Rendez-vous sur RMC à 21h05. Autre rendez-vous à ne pas manquer sur RMC dès demain et pour les trois prochaines semaines, la 111e édition du Tour de France. C'est à Florence que les 22 équipes ont été présentées hier. Un grand départ en Italie, pays de cyclisme. C'est inédit pour le loco Léna Marjac. C'était un moment unique à ne manquer sous aucun prétexte.
Sous un grand soleil et une forte chaleur, il fallait s'armer de patience pour voir la présentation des équipes. Mais vivre un départ du Tour dans leur ville à Florence, c'est un moment historique. Massimo et Giorgio ne pouvaient pas louper ça.
C'est un grand événement et vous voyez ça qu'une fois dans votre vie.
En tenue de cycliste, David est au premier rang pour voir ses idoles.
Ce sont des champions que je regarde d'habitude à la télé et qui me procurent de belles émotions. Les voir en vrai, c'est immanquable.
Sur le podium, acclamé par les spectateurs, Luca Mozzato, coureur italien de l'équipe Arkea, a savouré.
Avoir la chance d'être au départ dans ton pays, il est un truc qui est encore plus grand. J'ai reçu beaucoup plus de chaleur parce que forcément je suis chez moi.
Maillot de champion d'Italie sur le dos, Alberto Bettiol espère maintenant briller devant son public.
C'est beaucoup d'émotions, c'est comme un rêve de prendre le départ chez moi. J'ai hâte que ça commence, j'espère être prêt. Je verrai ce que j'arrive à faire, mais c'est le Tour de France et ce n'est jamais facile de gagner une étape.
2014, c'est la dernière année où un Italien remportait le Tour de France.
Et puis une autre course, le Quintet, c'est à Vincennes.
Et c'est à 20h15 sur RMC Découverte. Le 3, Dylan Dog Font est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 8, Jazz de Pad. Le 3 et le 8.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h37.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Trois semaines de campagne, dernier jour ce vendredi. Mais est-ce que vraiment cette campagne express aura servi à quelque chose? On va décrypter les tout derniers sondages et notamment cette part des indécis dans un instant avec la politologue Chloé Morin. Elle est l'invitée du jour sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41. Très bon réveil à tous.
L'invité du jour.
Bonjour Chloé Morin.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour essayer de nous éclairer. Vous êtes politologue à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez particulièrement analysé cette campagne, non seulement les propos des différents candidats, mais aussi les dynamiques et les intentions de vote. Est-ce que cette campagne a vraiment servi à quelque chose ?
Quand on regarde les grands blocs et les niveaux auxquels chacun se trouve, on est à peu près dans la même situation où on se trouvait quand la gauche a noué son alliance, c'est-à-dire que les deux semaines de campagne n'ont pas fait bouger fondamentalement les choses. Le RN a un peu augmenté, parce que pour la première fois, ses électeurs ont compris qu'ils pouvaient vraiment gagner, ce qui est quand même quelque chose de très nouveau pour eux. Mais sinon, les choses n'ont pas changé, et le bloc central, le bloc ensemble, reste très démobilisé, sans doute parce que la colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron et sa décision de dissoudre est toujours aussi forte.
Alors ça c'est très intéressant effectivement aussi sur la question du rejet. Il semble aujourd'hui, et les derniers sondages étaient frappés, j'en parlais hier sur cette antenne, du sondage Odoxa notamment sur la question de la volonté à faire barrage à. Désormais, en numéro un, c'est faire barrage au front de gauche, enfin au nouveau front populaire. En deux, c'est faire barrage à Emmanuel Macron, hein, quand on pose la question aux Français, à qui voulez-vous faire barrage? Et ça n'est qu'en troisième position qu'ils disent faire barrage au RN. C'est une totale inversion de ce que c'était jusqu'alors.
Oui, avant la logique de rejet fonctionnait clairement contre le Rassemblement National. Aujourd'hui, on a trois partis ou personnalités en réalité qui suscitent énormément de rejet. Vous avez d'un côté la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon particulièrement. De l'autre côté, vous avez un RN qui a été considérablement normalisé dans l'esprit de beaucoup de Français. Et puis effectivement, il y a la figure d'Emmanuel Macron qui est, il faut le dire, qui pose des difficultés à son camp.
Au moment où l'on se parle et alors qu'on est à deux jours du vote, il y a encore un quart des Français qui disent qu'ils sont indécis, pas seulement sur pour qui voter, mais sur le simple fait d'aller ou non voter. On avait des témoignages ce matin avec vous, Charles, d'électeurs qui disaient « de toute façon, je me sens cocu parce que j'ai l'impression d'être obligé », c'était le mot qu'employait cet auditeur, « je me sens bloqué entre des extrêmes et donc je n'ai pas forcément la force d'y aller ».
Oui, c'est effectivement, on voit d'ailleurs ces électeurs, surtout dans le bloc central, parce qu'en réalité, la gauche est très mobilisée dans cette logique de faire barrage au Rassemblement National. Les électeurs au Rassemblement National sont très mobilisés aussi. Et effectivement, entre ces deux pôles-là, on trouve énormément d'électeurs qui sont déroutés, qui n'ont pas envie de trancher entre ces deux options-là, qui savent que finalement, ils n'auront pas de majorité et qui donc se disent, ben, à quoi bon voter ?
Et je voudrais qu'on puisse donner la parole à Alexandrin. Bonjour Alexandrin.
Bonjour Apolline, bonjour la team, bonjour Chloé Morin.
on est tous là, on vous écoute. Alexandra, vous avez 41 ans, vous travaillez et vous vivez à Lille. Vous vouliez témoigner de vos propres hésitations de vote et de votre propre cheminement, racontez-nous.
Oui, bah écoutez, moi, ça fait 8 ans que j'habite à Lille, je suis originaire de Perpignan.
Oui, ça s'entend, vous n'avez pas l'accent de Lille, j'avoue.
C'est pas vrai, et on me le dit tous les jours, figurez-vous. Donc voilà, et ça met un peu de soleil à Lille. Voilà, bah écoutez, moi j'ai toujours été à gauche, toujours, conviction de gauche. Et là, dernière élection, j'ai voté en faveur de l'extrême droite. Voilà.
C'est la première fois que vous votez RN.
Oui, la première fois.
L'insécurité, c'est votre au fond, et d'ailleurs ça, je trouve ça très intéressant et j'interrogerai Chloé Morin dans un instant là-dessus, c'est que toute la première partie de ces 3 semaines de campagne, elles se sont concentrées beaucoup sur le programme économique du RN et les adversaires du RN ont concentré leurs critiques davantage sur c'est pas crédible, il y a trop de sous, etc. Mais vous, c'est pas du tout sur cette question-là que vous avez choisi de voter pour le RN, Alexandra, c'est sur la sécurité. Alors, c'est ça ce que vous dites?
Pas du tout. Alors moi, je vous dis, je commence très tôt le matin, j'achète de la viande pour tout le groupe Carrefour de la région Nord-Pas-de-Calais.
D'accord, donc vous êtes une
lefto. Donc voilà, oui. Et donc, je me suis fait agresser 2 fois. Carjacker 1 fois. Toujours, alors je veux pas jeter la pierre parce que je suis absolument pas raciste, mais pas du tout. Je vous explique pas du tout. Mais toujours par des personnes d'origine maghrébine. Donc à un moment donné, j'en peux plus, quoi. Il y a un moment donné, on se lève pour aller bosser, on paye des impôts, on paye tout, et Macron n'est même pas capable de préserver notre sécurité, quoi, quand même. Mais c'est terrible, moi je suis une femme, quand même. Vous voyez, j'ai la peur au ventre d'aller travailler. Je me suis fait agresser 2 fois sur le lieu de travail. L'entrepôt, moi je travaille dans une centrale d'achat. Il y a des caméras, il y a machin, et ben ils viennent voler dans les poubelles, nanana, et on est toujours. Alors j'ai décidé de voter Rassemblement National, et ça me fait mal. Franchement, ça me fait mal. J'ai toujours été de gauche. Je me reconnais plus dans cette gauche. Jean-Luc Mélenchon, il me fait honte. Il me fait honte. Avant, il était bien. Maintenant, il fait honte. Pour moi, c'est un dictateur en puissance. Il me fait encore plus peur que le RN. Vous vous rendez compte? On en est venu là.
C'est nous, les gens de gauche. Vous êtes une électrice de gauche et vous avez plus peur de Mélenchon que du RN désormais.
Ah, il me fait peur. Ah, il me fait peur. Ah, il me fait vraiment peur, Jean-Luc, là. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans des meetings.
Vous n'étiez pas juste électrice de gauche.
Moi, j'ai toujours été vraiment de gauche. Voilà, moi, je suis pour les ouvriers. Moi, je suis partie de rien. Bon, je gagne un bon salaire, tout ça. J'ai pas de soucis, mais j'ai toujours été. Et là, honnêtement, mais j'en ai presque chialé de voter RN, quoi. Vous rendez compte? Mais je peux pas faire autrement. Et à un moment donné, il faut arrêter l'immigration. Voilà. Et, de toute façon, il faut arrêter d'accueillir les gens qu'on peut plus les accueillir correctement.
Alexandra, on a entendu votre témoignage. Alexandra qui nous appelait donc de Lille. Merci de votre témoignage. En fait, ce que je trouve terrible dans le témoignage d'Alexandra, c'est la douleur. C'est-à-dire, en fait, je vote RN, mais en même temps, c'est horrible et j'en chiale, Chloé Morin.
Oui, c'est le fruit en fait de l'échec de tous les autres partis. On le voit beaucoup ça dans les études, c'est-à-dire que les gens se disent, bah finalement, que ce soit sur la sécurité ou sur les questions économiques, on a essayé la droite, puis la gauche, puis le ni droite ni gauche, et en fait rien ne marche. Et donc c'est l'ultime recours en quelque sorte.
Sur cette question des femmes, du vote des femmes, Chloé Morin, j'entendais Jérôme Fourquet la semaine dernière expliquer que le vote des femmes était désormais un vote en faveur du RN, que les femmes ont voté RN en numéro 1, ce qui jusqu'à présent n'était pas du tout le cas, ça restait un vote très masculin. Le témoignage d'Alexandra, il illustre parfaitement cette question-là.
Oui. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est en fait, avant, il y avait, c'est vrai, beaucoup moins de femmes qui votaient RN. C'est vrai qu'avec l'accession de Marine Le Pen à la tête de son parti, ce gap-là a commencé à se réduire. Et aujourd'hui, oui, les femmes votent RN. Et quand on demande, par exemple, aux femmes qui défend le mieux les intérêts des femmes dans les différents partis, c'est le RN qui arrive largement
en tête. Et quand elle dit « j'ai honte de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui », est-ce que, a posteriori, à l'issue de ces trois semaines de campagne, Chloé Morin, dans vos études, est-ce que vous observez ou non le fait que ce front commun de la gauche, ce nouveau front populaire, est-ce que ça a fait augmenter le nombre d'électeurs ou est-ce qu'au contraire ça en a fait partir une partie comme Alexandra?
Non, ils ont une partie de déperdition qui sont des électeurs, typiquement les électeurs qui ont voté Raphaël Glucksmann aux européennes. Une grande partie pour eux, c'est pas possible la France insoumise. Donc il y a eu de la déperdition par rapport à l'ensemble des voix recueillies par les différentes listes de gauche aux européennes, ça c'est certain. Et donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir et c'est bien pour ça que ses différents alliés se sont succédés sur les plateaux télé cette semaine pour dire qu'il ne serait absolument jamais Premier ministre.
Qu'il ne serait jamais Premier ministre, vous y croyez ça, Chloé Morin ?
Je ne sais pas, ça dépend comment il est désigné, parce qu'en réalité, les insoumis ont le plus de sortants, le plus d'investitures, et si c'est le groupe dominant au sein de la gauche qui choisit, eh bien, on a du mal à imaginer les insoumis désigner quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon.
Merci Chloé Morin d'être venue ce matin.
Merci à vous.
Décrypter tout cela pour nous, vous êtes politologue à la Fondation Jean Jaurès. Merci Alexandra pour votre témoignage, et je précise, puisque vous parliez des électeurs, notamment de Raphaël Glucksmann, qu'on a eu le témoignage tout à l'heure à 6h40 d'un électeur de Raphaël Glucksmann qui, cette fois-ci, va aller voter blanc et qui se sent abandonné pour ces législatives. Il s'appelle Loïc et il était là tout à l'heure. Non, d'ailleurs, c'était pas Loïc. Pardon. Il est 7h49. Je cherche son prénom. Le quiz est difficile. On est d'accord, Charles.
Yannick, peut-être, oui.
On vous le recevra tout à l'heure. 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Nicolas Poincaré, expliquez-nous.
Je vous explique comment s'est passé le débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump cette nuit.
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Et c'est l'heure du bonus de Charles. Le bonus avec ce film exceptionnel diffusé lundi soir sur RMC Story.
Un document inédit sur les attaques du 7 octobre en Israël. Israël attaqué par le Hamas. C'est le titre de ce documentaire qui, pour la première fois, retrace minute par minute comment, en moins de 24 heures, 3000 terroristes vont commettre le pire. 1200 femmes, hommes et enfants assassinés, 5000 blessés, 252 otages. Dans ce film, on va découvrir des images inédites, des témoignages très rares de rescapés, de héros et d'anciens otages.
J'étais sur la piste principale et mon ami sur la petite. Quand soudain, des roquettes partout dans le ciel. Boum, boum.
On entend les tirs automatiques.
On a traité 630 blessés en 14 heures.
Israël attaqué par le Hamas, c'est donc un documentaire inédit. À ne pas manquer, ce sera diffusé ce lundi 1er juillet, 21h10, sur RMC Story.
Terrible document, donc exceptionnel.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés cette nuit lors d'un débat télévisé de plus d'une heure et demie. Joe Biden est apparu affaibli et c'était un débat très violent.
Oui, violent, c'est le mot. Ils ont lâché leur coup, les deux vieux candidats. Exemple assez rapidement, Joe Biden dit « J'ai à côté de moi un repris de justice. Il a couché avec une actrice porno pendant que sa femme était enceinte. » Et Joe Biden traite son adversaire de dépravé. Donald Trump dément avoir eu des relations sexuelles avec cette actrice et il dénonce un complot judiciaire mené par des juges politisés. Autre moment de forte tension sur l'avortement, un thème qui est très sensible dans cette campagne. Donald Trump accuse les démocrates de vouloir autoriser l'avortement jusqu'au 9e mois et il lâche avec Joe Biden, on arrache les bébés des entrailles de leur mère pour les tuer. Trump a même parlé des États démocrates où les enfants peuvent être tués après la naissance et Joe Biden a laissé passer cette énormité sans réagir.
Donald Trump qui a été le plus offensif.
Oui, il a traité À de nombreuses reprises, Joe Biden, de pire président de l'histoire, il l'a accusé d'avoir détruit le pays, d'être un faible, d'être vendu aux Chinois, d'être un Palestinien, et j'en passe. Joe Biden a répondu à ces nombreuses attaques en répétant « mensonge, menteur, je n'ai jamais entendu autant de mensonges », mais il a effectivement semblé tout le long sur la défensive, en cherchant parfois ses mots, avec le handicap d'avoir une voix beaucoup plus faible que celle de son adversaire. Il lui est arrivé de ne pas terminer ses phrases, et Donald Trump ne l'a pas raté. Il a dit à un moment « je n'ai rien compris ». Ce qu'il voulait dire, mais d'ailleurs, je crois que lui non plus ne savait pas très bien ce qu'il voulait dire.
Quelle violence. La question de l'âge a été posée ?
Oui, forcément. Les présentateurs de CNN ont rappelé à Joe Biden qu'il aurait 86 ans à la fin d'un éventuel deuxième mandat. Le président a botté en touche en expliquant qu'on lui avait souvent reproché d'être trop jeune au début de sa carrière. Donald Trump a sauté l'occasion pour raconter que lui avait passé des tests cognitifs et qu'il avait su répondre à toutes les questions. Il s'est vanté d'être en pleine forme et d'avoir remporté récemment 2 tournois de golf et pas des tournois pour seniors, alors que selon lui, Joe Biden, au golf, n'est plus capable d'envoyer la balle à 50 mètres. Le président a protesté en affirmant qu'il avait eu un très bon niveau au golf. Il a fait remarquer que Trump avait plutôt pris du poids ces derniers temps.
Mais on en est c'était là, c'est pas vrai.
Ouais, c'est un moment du débat où on serait cru vraiment dans une cour d'école.
Incroyable. Bon, finalement, est-ce qu'il y a un vainqueur ?
Alors, CNN a fait un sondage immédiat et les téléspectateurs interrogés disent que Donald Trump l'a emporté 2/3 2/3 estiment que Trump l'a emporté. En réalité, Trump a fait du Trump avec les excès qu'on lui connaît et qui plaisent à ses supporters. Mais je crois qu'on retiendra surtout que Joe Biden a encaissé les coups, qu'il est apparu plus vieux, plus faible que son adversaire. Il n'a pas été vraiment KO, mais il n'a pas rassurer ceux qui se demandent s'il est vraiment capable de diriger la première puissance du monde jusqu'en 2029. Le New York Times parle d'une prestation incohérente qui soulève des questions sur sa capacité à poursuivre son action en tant que candidat.
Que candidat, même voilà. Pas président.
Exactement. Le New York poursuivre Times. Son action en tant que candidat, ça veut dire que le grand quotidien américain se demande si les démocrates ne vont pas être obligés au dernier moment de chercher un autre candidat. Il va falloir surveiller dans les heures qui viennent si la question se pose vraiment.
Merci Nicolas pour ces explications. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.